Protestante, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Quand les séries écrivent l'histoire en direct des studios de Fréquence Protestante. Bonjour à tous et toutes. Dans l'immense production des séries anglo-saxonnes, les fictions historiques sont massivement représentées. Mais parfois, cette dimension historique est comme écrasée par le genre même dont relève la série. On oublie ainsi qu'un western se déroule dans la seconde moitié du 19e siècle, ou que les intrigues de Downton Abbey figurent une société de classe à la fois lointaine et proche de la nôtre. Se plonger dans le passé permet de peindre une époque, de travailler des écarts d'émotions ou de réactions, ou encore de s'intéresser à des états naissants, à des moments où quelque chose apparaît qui peut encore irriguer notre quotidien. Par exemple, la série médicale de Steven Soderbergh, The Nick, se déroule dans un hôpital new-yorkais au début du XXe siècle et illustre les changements ou les nouveautés de l'époque, l'apparition de l'ambulance à moteur, des rayons X, de nouvelles techniques d'opération et d'instruments inédits. État naissant de rapports sociaux aussi, ou de rapports de genre, comme dans Mad Men de Matthew Weiner. Se plonger dans le passé autorise surtout à raconter l'histoire à travers une série. Voir les moments paroxystiques dans le cas des guerres ou d'événements singuliers, voir comment la communauté se défait et tente de se refaire après justement un phénomène inédit. On pensera bien sûr à Tremé et à l'ouragan Katrina qui a ravagé la Nouvelle-Orléans. Politiquement, le recours à la fiction permet tous les usages et les interprétations. Il peut s'agir d'orienter la lecture d'une situation historique connue, une révolution par exemple. Il s'agit de la représenter pour lancer une discussion collective, pour faire accepter un passé qui ne passe pas, comme pour éteindre ou relancer une concurrence des lectures. L'étrange familiarité de la fiction permet de faire des propositions publiques pour réinventer le présent à la lumière du passé. Une crise contemporaine peut ainsi chercher ses solutions dans une crise plus ancienne. A l'inverse, la déconstruction d'un âge d'or oblige à proposer des idées inédites et à réactiver des utopies. Alors les séries font-elles bien de l'histoire ? La période évoquée l'est-elle à la manière des historiens au sens d'une histoire problématisée ou à la manière des chroniqueurs au sens d'une histoire récit ? Bonjour Yohannis de Roade.
Bonjour.
Yohannis de Roade, vous êtes agrégé d'histoire et enseignant en lycée. Vous avez publié deux livres sur les séries. Je vous reçois aujourd'hui pour le plus récent d'entre eux, qui vient de sortir, hein, Dominer le monde, les séries historiques anglo-saxonnes. C'est paru chez Vendémiaire. Alors Yohannis de Roade, pourquoi est-ce que votre ouvrage s'appelle Dominer le monde?
Alors oui, c'est dû au choix des pays. Bon, il y a trois pays sur lesquels je me suis penché. L'Australie, c'est vrai, mais surtout les États-Unis et le Royaume-Uni. Et évidemment, ces pays se sont penchés dans leurs séries historiques sur leur propre histoire. Une histoire faite de guerre, de colonisation, de conquête, de domination. Et c'est vrai quand il s'agit de choisir le titre avec l'éditeur, finalement, c'était un des traits communs qu'on retrouvait dans les différentes périodes et dans les différents sous-genres de la fiction historique, c'était cette domination. Et puis bien sûr, ces séries, elles se sont exportées massivement depuis les années 50 dans le monde entier, et elles dominent aussi, c'est vrai, la production mondiale. Ce sont celles auxquelles nous sommes les plus exposés.
Et alors, est-ce qu'on trouve quand même dans certaines séries la nostalgie d'un empire ou quelque chose
alors,
de cet ordre-là ?
Dans les séries britanniques, c'est même presque une constante puisque la production télévisuelle commence dans les années 1950, au moment même justement où la décolonisation s'accroît et où l'Empire britannique se réduit à grande vitesse. Et jusqu'à aujourd'hui, vous citiez Downton Abbey, on a évidemment ce regret, ou du moins cette émotion vis-à-vis d'une Angleterre de jadis, qui peut-être sans doute n'a jamais existé, mais malgré tout dont les fictions se plaisent à cultiver le souvenir. Quant aux États-Unis, leur histoire est bien sûr moins longue, mais ils apparaissent sans doute moins triomphants, moins dominateurs, moins hégémoniques que par le passé. Et le penchant nostalgique, du coup, se décèle également.
Il y avait dans les années 60, 70, 80, l'idée que le cinéma américain, le cinéma, était vecteur d'une espèce d'idéologie dominante, impérialiste, pour reprendre les mots de l'époque. J'ai l'impression que cette analyse-là, elle est moins valide aujourd'hui. En tout cas, vous, c'est pas ce que vous proposez. C'est pas votre idée que les séries seraient un vecteur idéologique de l'Empire américain, par exemple, Yohannis de Roade.
Non, pas forcément. Alors, c'est vrai que dans les westerns des années 50, on a quand même cette idéologie. On a l'affirmation de valeurs américaines. On a un anticommunisme qui, sans être forcément exprimé, quand même est sous-jacent et justifie des prises de position assez marquées. Et le héros de western, c'est bien sûr l'américain individualiste, le self-made man, attaché à la liberté individuelle, au droit de propriété, bien sûr. Bref, à toutes ces choses qui, dans le contexte de la guerre froide, quand même avaient une grande importance. Par la suite, effectivement, le constat est peut-être un peu moins facile à tenir. La télévision a quand même été souvent portée par... ce qu'on pourrait appeler au sens anglo-saxon du terme des libéraux, des progressistes, qui se reconnaissaient pas forcément dans ces valeurs dominantes américaines plus conservatrices. Et il y a souvent eu, de ce point de vue-là, des discours, un peu plus anticonformistes qui ont été tenus. Alors, rarement de manière très militante et vraiment transgressive, mais dont, malgré tout, on peut retrouver la trace dans un certain nombre de fictions.
Si on reste sur le western que vous évoquiez, alors vous indiquez dans votre livre que entre 1949 et 1959, les États-Unis ont produit près de 7000 épisodes de western, pas 7000 séries, mais 7000 épisodes sur plein de séries. Qu'est-ce qui s'est joué dans ce genre historique qu'est le western ?
Alors, bon, le western existait avant, bien sûr, la télévision. Il existait au cinéma, il existait dans la littérature et notamment dans la littérature populaire, dans ces petits feuillets, petits magazines qui étaient vendus à très bas coût et qui touchaient un très large lectorat, dans les bandes dessinées aussi. Donc, le genre était quand même déjà bien installé. Dans les séries aussi, ces films de série B qui, dès les années 20, 30, vraiment remplissait les salles de cinéma. Mais c'est vrai qu'il y a un engouement extraordinaire dans les années 50-60. Alors, bon, la télévision est quand même souvent un média assez conformiste au sens où on est plus tenté de reproduire une recette qui marche que d'expérimenter un nouveau concept. Donc, c'est le succès des westerns qui a appelé les autres westerns. Et puis aussi parce que les premiers westerns qui ont été proposés à la fin des années 40 et au début des années 50 étaient très familiaux, même très enfantins, et donc collaient bien à ce média de masse qui devait pouvoir rassembler devant justement le poste de télévision toute la famille. On était dans quelque chose qui, en tout cas du point de vue américain, n'était pas considéré comme clivant, même s'il était souvent déjà un peu violent, peut-être, qui en plus se prêtait bien à l'exaltation de certaines valeurs, aussi à la mise en place de tout un merchandising qui en fait est arrivé très très tôt. Vraiment, dès les toutes premières séries western, on a la déclinaison en produits dérivés visant justement la famille et les enfants. Or, la télévision américaine, elle est commerciale. Les épisodes sont vraiment parsemés de publicité. Et donc, évidemment, il y a une complémentarité évidente entre le programme de fiction, les annonceurs et les produits qui sont derrière.
Dans la vision de l'historien, et c'est ce que vous indiquez dans votre ouvrage Johannes de Roade, il y a l'idée qu'en fait, la période historique à laquelle correspond le western, qui est, on va dire, la deuxième moitié, la fin du 19e, elle est, par cette production sérielle, elle est en quelque sorte dilatée. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une période qui a duré un siècle et demi, une conquête de l'Ouest interminable.
Exactement. D'ailleurs, je m'étais posé la question au début de l'écriture du livre, de savoir si j'intégrerais le western ou pas. D'abord, parce que comme vous l'avez dit, c'est un nombre absolument invraisemblable d'épisodes, de séries. Bon, c'est un corpus qui en soi est... Et puis parce que c'est un genre qu'on n'associe pas immédiatement à la fiction historique. La fiction historique, on pense à la fiction en costume. Et pourtant, s'il y a bien un personnage costumier, c'est bien le cow-boy, mais on le tient à part. On le tient à part justement parce que ces séries western ne cherchent jamais, assez rarement, à placer chronologiquement leur univers, leurs personnages. On est dans un passé, ça c'est sûr, mais très indistinct et effectivement étirable à peu près à l'infini. Les séries western qui annoncent l'arrivée d'un nouveau monde sont très rares en fait, qui montrent justement un ouest finissant, quelque chose qu'on trouve assez bien au cinéma. C'est assez rare dans les westerns de l'âge d'or de la télévision. Non, c'est justement cet ouest dont on a la nostalgie et qu'on aimerait bien recréer et qu'on aimerait continuer de contempler à la télévision dans notre vie quotidienne pour toujours.
Alors, vous parliez de nouveaux mondes, on va évoquer les mondes alternatifs. Je me posais la question, Johannes de Roade, de savoir ce que peut faire l'historien avec des séries alors fantastiques comme Game of Thrones, mais ça, vous l'évacuez un peu dans votre ouvrage, mais par exemple avec des séries uchroniques comme Le Maître du Haut-Château, produite par Amazon et qui est adaptée de Philippe K. Dick, parce que après tout, ce sont des séries qui empruntent des éléments, des costumes, des manières de parler à l'histoire, mais qui en même temps reposent sur une histoire. Là, par exemple, dans le cas du Maître du Haut-Château, une histoire contrefactuelle, une histoire qui n'est pas advenue. Qu'est-ce que peut en faire l'historien ?
Bon, je crois que ces uchronies, à la racine, il y a toujours un plaisir. Le plaisir de mélanger les genres et le plaisir, effectivement, de s'autoriser des libertés dont on se prive dès lors qu'on s'attache à faire une fiction historique un peu sérieuse, un peu crédible. Et donc, immédiatement, il y a tout un tas de barrières qui se dressent. Avec l'uchronie, on peut les évacuer. C'est pas non plus si étonnant que ça que les anglo-saxons proposent souvent souvent des séries uchroniques parce que même dans l'historiographie anglo-saxonne, on a beaucoup moins de réticence qu'en France, par exemple, à raisonner sur le mode du SI et à envisager des scénarios alternatifs. Non pas pour réécrire l'histoire, mais pour comprendre finalement pourquoi les choses se sont passées ainsi. Elles se sont passées ainsi parce qu'elles ne se sont pas passées autrement, et donc finalement où s'est jouée la bifurcation, hein, où véritablement des choix ont été faits, des orientations ont été prises. De ce point de vue-là, je pense que il y a en tout cas toute une école historique anglo-saxonne qui se reconnaîtrait assez facilement dans l'Uchronie. Alors qu'en effet, elle nous paraît peut-être à nous, j'allais dire continentaux ou français, plus choquante et un peu plus insaisissable finalement. On ne sait pas trop quoi en faire. Voilà, moi ça m'a semblé du coup très dépaysant d'avoir ces fictions qui d'un côté essaye de faire une reconstitution aussi précise que l'aurait fait une série historique classique et en même temps se permettre des aberrations complètes et d'essayer de voir où ça les mène.
Mais par exemple les séries fantastiques type Game of Thrones, ça vous a pas intéressé directement parce que vous avez dit c'est vraiment pas historique, alors que par exemple ça pourrait représenter
bien sûr
un certain Moyen-Âge ou le cliché du Moyen-Âge extrêmement violent, sombre.
Oui, alors, d'autant plus que l'auteur des romans qui ont inspiré la série dit bien qu'il s'est inspiré d'événements notamment de l'histoire anglaise, la guerre des Deux Roses par exemple, et donc il y a effectivement un substrat historique qui est assez fort. Bon, en fait, je m'étais posé la question pour le western, je me l'ai aussi posé pour la fantasy, puisque finalement on est dans la fantasy.
Médiéval fantasy.
Voilà, dans Game of Thrones on a des dragons, on a des choses comme ça. Voilà, des zombies, bon, c'est quand même un peu particulier. Ce qui m'a surtout embêté, c'est que, ce qui m'a décidé, disons, c'est que Game of Thrones ne se pose pas la question de quand ça aurait pu se passer exactement. Effectivement, ça nous fait penser au Moyen-Âge, mais par exemple, Game of Thrones nous avait dit c'est le 13e siècle, mais c'est pas le vrai 13e siècle, et après tout, le 19e siècle des westerns n'est pas le vrai 19e siècle non plus, alors je l'aurais intégré sans problème parce que c'est le type de décalage que les séries historiques opèrent toujours. Hein, je crois qu'on est toujours dans un passé plus ou moins rêvé, de toute façon. Mais là, on est dans quelque chose qui est tout simplement, qui m'a paru tout simplement trop flou, trop vague, un peu lorsque, dans un autre genre, on regarde Kaamelott sur les Chevaliers de la Table Ronde, on est aussi dans un Moyen-Âge, mais tellement indistinct qu'il est insituable en réalité chronologiquement.
Ouais, où la fiction l'emporte vraiment sur toute hypothèse historique. On a un thème qui traverse nombre de séries qui vous a aussi intéressé et qui est le thème du voyage dans le temps. Et là, c'est vraiment, pour l'historien, c'est fascinant parce que c'est la plongée au cœur du passé d'un contemporain, donc de quelqu'un qui est notre contemporain et qui voyage. On pense effectivement à Doctor Who, mais il y en a plein d'autres. Là, c'est le moment où le héros de série se fait historien finalement.
Oui. Alors, ce qui m'a intéressé dans les voyages dans le temps, c'est que finalement, c'est là aussi une hybridation entre deux genres et ça montre que la fiction historique n'est pas enfermée forcément dans ces carcans qui peuvent paraître un peu poussiéreux, du costume, de l'adaptation littéraire, de ces choses-là. On peut au contraire avoir de l'historique plus autre chose, plus du fantastique, plus de la science-fiction, plus de l'horreur, enfin on peut imaginer absolument n'importe quoi. Et puis effectivement, un des plaisirs de la fiction historique, c'est le plaisir, c'est le plaisir du décalage. Plaisir ou parfois d'ailleurs étonnement. Mad Men par exemple reposait beaucoup là-dessus, l'idée qu'on était finalement rétrospectivement choqué par des choses qui dans les années 60 encore paraissaient tout à fait admissibles. Le sexisme, le racisme, tout le monde fume sans se rendre compte des dangers du tabac, etc. Bon. Alors avec le voyage dans le temps, évidemment, on rend encore plus flagrant ce contraste. Ça permet des jeux de commentaires, de références, de parallèles ou au contraire parfois d'incompréhension. Bon. Alors, dans l'histoire de la télévision, souvent, ces questions de voyage dans le temps ont aussi été traitées parce que ça permettait de réutiliser des décors, des costumes, enfin bon, des moyens matériels. Il faut bien voir, évidemment,
films, de péplums ou de séries qui étaient tournées à côté.
Il faut bien voir les enjeux économiques aussi derrière tout ça. Et que c'était un moyen, finalement, assez simple de créer de l'exotisme. Tout simplement.
Alors, vous l'indiquez dans votre livre, Ioannis de Roide, le voyage dans le temps pose des problèmes moraux, notamment aux héros qui se demandent s'ils ont le droit moral de changer l'histoire.
Oui, alors c'est un grand classique, un inévitable même du voyage dans le temps. Et d'ailleurs, on est un peu surpris quand on regarde les premières séries de voyage dans le temps des années 60 que ces problèmes n'aient pas été placés au cœur. Bon, alors, c'est sans doute parce qu'on serait entré dans quelque chose d'un peu plus cérébral, d'autant que qui dit voyage dans le temps dit souvent un certain nombre de paradoxes qui finissent par devenir inextricable, bon, et que c'est pas forcément le genre d'expérience qu'on voulait offrir aux spectateurs. On voulait rester dans le divertissement, dans l'exotisme, dans l'aventure. Mais les séries un peu plus ambitieuses, on pense à La Quatrième Dimension, alors qui n'est pas une série historique, mais qui a fait des épisodes de voyage dans le temps. Et puis, n'importe quelle série qui serait produite aujourd'hui, encore une récemment qui avait vu le jour à propos de la possibilité ou pas d'empêcher l'assassinat du président Kennedy.
C'est 11-22-63, voilà, qui est la date de l'assassinat de Kennedy avec James Franco.
Des séries comme ça, ne peuvent pas faire l'impasse sur ce genre de problème. On voit que c'est finalement l'intérêt, finalement, si on veut revisiter l'histoire de cette manière-là, c'est de lui donner cette approche morale. Très souvent, d'ailleurs, dans les séries historiques, cette question morale revient. Soit qu'on aborde des problèmes moraux, justement, qui sont communs à toutes les époques, et de ce point de vue-là, la moralité, par exemple, du chef qui est posé dans des séries se déroulant au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'un bon chef? Qu'est-ce qu'un bon gouvernant? Ce sont des problèmes qu'on pourrait retrouver aujourd'hui. Je pense à Wolf Hall, par exemple, qui s'intéresse au personnage de Thomas Cromwell et à la figure d'Henri VIII. Ou alors, même si on est dans quelque chose de beaucoup plus imaginaire, on a de toute manière toujours ces enjeux-là.
On va écouter et entendre le générique de la série britannique dont on a parlé depuis le début de l'émission, Downton Abbey. La valeur de l'homme, quand les séries écrivent l'histoire, nous sommes en compagnie de Yoannis de Rouade. Alors Yoannis de Rouade, vous montrez dans votre ouvrage que bien le recours à des périodes passées permet de montrer un peu différemment des minorités raciales, notamment aux États-Unis, de mieux montrer les femmes. Vous prenez l'exemple d'une série qui a été diffusée en France, qui s'appelle The Outcasts, les bannis. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, pourquoi là, le fait de faire une série historique permet de mieux montrer ça? Comment ça opère?
Ouais, ce que l'histoire donne, on l'a dit, c'est une distance. Et cette distance, elle est bien pratique pour justement mettre à distance des problèmes qui peuvent paraître un peu trop difficiles à aborder de front. Alors, avec The Outcasts, effectivement, ce qui compte, c'est la période de diffusion. C'est-à-dire qu'on est dans cette deuxième moitié des années 1960. Évidemment, le mouvement des droits civiques aux États-Unis connaît une grande ampleur. Et comme jamais, le pays se confronte à ce problème. Parfois de manière violente, parfois de manière plus pacifique. La télévision ne peut pas rester à l'écart de ce mouvement de fond. Et tardivement, pourrait-on dire, elle s'y met. Alors timidement, au sens où The Outcast, c'est un western donc, parmi tellement d'autres, qui de plus n'a pas rencontré un très grand succès, mais qui essayait lui aussi de tirer les leçons de ce changement historique en train de se produire, en confiant pour la première fois la tête d'affiche à deux cow-boys, un blanc et un noir, en faisant en plus du blanc un ancien maître d'esclaves, puisqu'on était dans le contexte de l'après-guerre de sécession. Beaucoup de westerns se passent dans ces années d'après-guerre, et donc beaucoup de cow-boys sont en fait des vétérans, d'anciens soldats, c'est le cas de ces deux héros. Là où la série est intéressante, c'est qu'elle ne va pas immédiatement concilier ou réconcilier ces deux héros qu'a priori tout oppose, mais au contraire nourrir ces intrigues, des tensions qui ne peuvent que les animer, le blanc, le noir, le nordiste, le sudiste, l'ancien esclave et l'ancien propriétaire d'esclaves, et essayer d'installer ces tensions au cœur de la dynamique de la série. Alors, peut-être trop, justement, la série était peut-être trop tendue, ça peut expliquer éventuellement ces échecs d'audience.
Ouais, ou trop précoce. Les séries historiques peuvent aussi, vous le dites, Yoannis de Rouade, jouer sur l'échelle de perception des événements, c'est-à-dire où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on est sur une série très surplombante, ou est-ce qu'on est, par exemple, dans le cas d'un certain nombre de séries de guerre, redescendre au niveau du soldat. Vous donnez par exemple le cas de Band of Brothers, qui était une mini-série. Donc là, effectivement, on peut jouer sur des échelles qui sont parfois difficiles d'accès à l'historien, mais redescendre au niveau de l'individu. Fabrice à Waterloo.
Ça, c'est sans doute le propre de la télévision. La télévision n'a, pendant très longtemps, jusqu'au début du XXIe siècle, n'a jamais pu rivaliser techniquement avec le cinéma. Pas de superproduction, pas de figurants par milliers, pas d'effets spéciaux très coûteux. Tout ça était inaccessible. Dès lors, les grands événements historiques, les grands conflits, par exemple, ne pouvaient être abordés qu'à une échelle bien plus modeste. Bon. Qui finalement collait bien aussi avec le fait que la télévision, on la regarde chez soi, éventuellement en famille, dans un cadre plus intime que celui de la salle de cinéma. Ce qui est intéressant avec Band of Brothers, c'est que même au moment où la télévision commence à pouvoir rivaliser avec le cinéma, puisqu'on est dans la lignée hein, d'Il faut sauver le soldat Ryan, il faut se souvenir un petit peu de cette séquence du tournant des années 90-2000 où il y a eu un retour important sur la Deuxième Guerre mondiale parce que c'était le moment où les vétérans commençaient à quitter la scène. Et aux États-Unis, vraiment un gros moment mémoriel hein, sur, à ce sujet. Band of Brothers, finalement, peut dans une certaine mesure rivaliser avec les productions de cinéma récentes. Hein. Elle a été coproduite par Steven Spielberg, oui, Spielberg. Qui venait justement de faire Il faut sauver le soldat Ryan. Et en même temps, bah, elle choisit de rester fidèle à la tradition de la télévision, justement, qui est celle de l'échelle humaine, intime, de la hauteur de soldat. On est dans un anti le jour le plus long, de ce point de vue-là. Bon. Évidemment, c'est, je pense, le point fort de la télévision. Hein. C'est les personnages, c'est leur parcours, c'est l'attachement qu'on a à eux que, justement, le cinéma aujourd'hui, alors de manière un peu amusante, essaye de copier. Hein. On le voit très bien dans les cultures fans qui naissent, qui existent depuis longtemps autour des personnages de télévision auxquels on s'attache dans la durée. Et on voit bien que les séries de films aujourd'hui qui sortent de super-héros, par exemple, finalement, imitent hein, et cherchent à recréer cette même adhésion.
Dans le cas des films de guerre, Ioannis Deroy, vous montrez que ça permet aussi de filmer un nouveau type de masculinité, une masculinité un peu en crise ou des hommes souffrants, ce qui n'était pas le cas dans les films ou dans les super-productions où le héros était le héros jusqu'au bout.
Oui, alors là aussi, il y a plusieurs influences. Bon, il y a les influences de l'historiographie qui, depuis longtemps, s'était attachée à dépeindre les souffrances des soldats et pas simplement les aspects militaires ou géopolitiques de la question. Et puis, il y a effectivement des remises en cause du héros traditionnel qui avaient été opérées dans d'autres genres, dans le genre policier, dans le genre médical, dans des genres où justement le héros est davantage peut-être mis face à ses fragilités, à une société finalement dont qu'il ne maîtrise pas, dont il ne peut pas être le maître. Et donc il était logique que dans le champ historique, ces fragilités soient aussi exprimées. Aux États-Unis, clairement, ce qui a joué un grand rôle, c'est la guerre du Vietnam. Parce qu'on ne peut pas représenter la guerre du Vietnam et ses héros de manière aussi triomphale que pour les autres conflits. Et donc, dès lors que la télévision s'attache dans les années 80 à cette guerre, à la suite des films des années 70, elle aussi, elle va beaucoup insister sur, finalement, sur la souffrance. Et ensuite, cette souffrance, elle va être comme appliquée à la Deuxième Guerre mondiale, et à partir de Band of Brothers, et surtout dans The Pacific, qui est sa suite pour la guerre du Pacifique, donc entre les États-Unis et le Japon, on va avoir à nouveau ces soldats victimes, ces soldats vraiment souffrants.
On apprend plein de choses dans votre ouvrage, Ioannis Deroy, sur une petite série, mais qui est multi-diffusée en France, qui est Hogan's Heroes, en français Papa Schultz. Dites-nous un mot sur cette série comique. Hein.
Oui, alors, c'est une série comique, c'est une série qui a eu un grand succès lors de sa diffusion, mais qui a depuis plutôt très mauvaise réputation, y compris aux États-Unis, en tout cas auprès de la critique américaine, parce qu'effectivement, elle est située, elle prend place donc, dans un camp de prisonniers, alors un camp de prisonniers de guerre, hein. Ça n'est ni un camp de concentration, ni un camp d'extermination, mais enfin, quand même, on est dans un stalag pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, et on y voit un échantillon représentatif des alliés, un Américain, un Canadien, un Britannique, etc., au nez et à la barbe de leurs geôliers, mener des actions de sabotage, de résistance et tourner constamment en ridicule les Allemands. Le tout présenté sous une forme de sitcom avec des rires enregistrés. Alors, on comprend évidemment que, appliqué à cette période, et compte tenu de ce que fut les conditions de vie réelles des prisonniers de guerre dans les stalags allemands, ça puisse choquer. Le twist presque, hein, l'information intéressante ici, c'est de voir que beaucoup des collaborateurs, des acteurs de cette série sont des juifs ou sont d'anciens combattants. Donc des gens qui étaient très bien placés pour savoir ce qu'avait été véritablement la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'est une série des années 60, donc la Deuxième Guerre mondiale n'est pas très lointaine. Font en toute connaissance de cause, tourne en dérision hein, la Deuxième Guerre mondiale en sachant très bien ce qu'ils font. Alors, ça n'empêche pas d'être en désaccord éventuellement avec le ton de la série, mais il faut bien voir ce qui se joue là. Et par exemple, l'acteur qui incarne donc le commandant incompétent et ridicule du camp tenait beaucoup à ce que son personnage soit justement toujours le perdant. Hein, toujours parce que lui-même, issu d'une famille juive allemande, il voyait bien une manière de se moquer, hein, évidemment, de la force qui avait tant fait de mal à sa famille et et à ses amis.
Oui, il s'appelait Werner Klemperer, si je ne me trompe pas. On va écouter la bande-annonce de la 4e saison de la série de la BBC Peaky Blinders.
This war between us.
What's going on?
We are an organization on a different dimension.
Something wrong.
They're coming for us all.
Don't leave me alone. Mine's a star.
We don't get to decide who lives and who dies.
Blinders coming soon, only on BBC Two.
La valeur de l'homme quand les séries écrivent l'histoire. Nous sommes en compagnie de Yoannis Deroise. Alors, excusez-moi, avec la fiction, Yoannis Deroise, on mythifie un passé, parfois pour se réconforter, parce qu'on a la nostalgie de sa jeunesse. Et alors, on pense à ces séries un peu bonbon sucre, type Happy Days. Et alors, dans votre ouvrage, vous montrez que, finalement, Happy Days, c'est une série un peu moralisatrice, quoi, finalement. C'était mieux dans les années 50, les personnages évoluent bizarrement.
Oui, c'est ça. Bon, alors, il y a le penchant, la nostalgie, hein, ça, c'est quelque chose qui est un peu inévitable. Hein. On a cette séquence d'à peu près une vingtaine d'années qui fait qu'on revisite ce qui s'est passé il y a 2 décennies. Et ça, on le retrouve à toutes les époques. Donc, on est dans les années 70, on produit Happy Days qui se passe dans les années 50. Et on a la nostalgie, effectivement, d'une société plus simple, traversée par moins de revendications, par moins de bouleversements. Donc, l'intérêt pour les 50s, là, est assez clair. On est sur une chaîne, donc, un network américain, donc, grand public, qui doit viser des grandes audiences. Et on est, c'est important, sur une case horaire qui est 20h. À 20h, tout le monde est encore debout, y compris les enfants. Donc, on doit faire quelque chose de très, très consensuel. Et le genre est celui de la sitcom à nouveau, donc situation comique, rire enregistré, etc. Bon, bref, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on ait affaire à quelque chose de très conformiste. Comme en plus le succès est au rendez-vous, on n'a aucune raison de changer de formule et effectivement, celle-ci va perdurer très longtemps. Alors bon, c'est vrai que ce sont des séries du coup dont on peut estimer qu'elles ont mal vieilli de ce point de vue-là parce que elles n'ont pas du tout ce recul, cette distance, cette critique qu'on voit dans les séries historiques d'aujourd'hui. Hein, et si les séries historiques sont en vogue aujourd'hui, c'est justement parce qu'elles se sont détournées un peu de cette facilité qu'on avait à l'époque de Happy Days. Ce qui est amusant, c'est qu'en même temps, Happy Days ne parvient pas à ignorer complètement que c'est une série des années 70. En réalité, les vêtements, les coupes de cheveux, un certain nombre de comportements, quand on les regarde de près, ne pourraient pas du tout être ceux des années 50. Donc on a le décor des années 50, on a le regret des années 50, mais évidemment, on ne parvient pas à les recréer complètement. Par ailleurs, la série ne veut pas être identifiée à des aspects plus délicats, plus difficile, voire indéfendable des années 50, et par exemple le racisme. Alors en toute occasion, quand bien même il n'y aurait pas de personnages afro-américains présents de manière proéminente dans la série, eh bien Fonzie, le héros le plus populaire, ne manquera pas une occasion d'affirmer son antiracisme, sa tolérance, son progressisme, que sans doute son équivalent réel, si tant est qu'il ait pu exister dans les années 50, n'aurait jamais envisagé.
Et lui-même, d'ailleurs, c'est une espèce de personnage qui est présenté comme rebelle, un peu, il porte un blouson noir, une banane, puis vous montrez qu'au fil des épisodes, il va aller à la fac, enfin, il va un peu se normaliser et devenir beaucoup moins intéressant.
Et ça fait dire, hein, il finit prof alors qu'il avait abandonné l'école. Donc là aussi, on a une forme de récupération. Le succès dans une série, surtout à cette époque, vient souvent... limiter la liberté créative. Hein. Plus une série rencontre un grand succès, et moins elle peut se permettre des audaces. Alors, ce blouson noir, ça semble être un ingrédient un petit peu indispensable d'une fiction des années 50, mais attention, il ne s'agit pas non plus de présenter aux enfants ou aux adolescents qui regarderaient la série un modèle de rébellion. Alors, Fonzie va devenir rapidement plus sage et plus gentil.
Bon, on compare encore un héros de notre jeunesse. Merci beaucoup pour votre présence, Yoannis Deroise. Cette émission s'achève. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Dominer le monde, les séries historiques anglo-saxonnes. C'est paru chez Vendémiaire en 2017. Merci à Emmanuel Domisco à la technique. Cette émission sera en podcast très bientôt sur le site de Fréquence Protestante. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission. À bientôt.